Le journal de Nicolas Meusy.
Bonjour, Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche. Le républicain a officiellement remporté l'élection présidentielle américaine face à Kamala Harris. On vous propose une page spéciale dans ce journal avec des analyses, des réactions et un retour sur les instants décisifs de la campagne. La Société des peintres et sculpteurs jurassiens célèbre ses 70 ans. Elle organise une biennale avec 28 artistes à Soyères, mais aussi un projet particulier en collaboration avec une classe d'école. Une année d'apprentissage pour Grégoire Saucy, le pilote automobile de basse-cour, a terminé il y a quelques jours sa première saison en endurance. Une 9e place en championnat du monde, un 4e rang en championnat d'Europe et surtout beaucoup d'enseignements. Météo, le brouillard remonte vers 1000 mètres d'altitude et va permettre au soleil de briller un peu malgré la présence de passages nuageux. Les températures sont de saison avec des maximales à 12 degrés.
That will allow us to make America great again.
Le fameux slogan de Donald Trump dit aujourd'hui, prononcé aujourd'hui lors de son meeting d'après-campagne pour annoncer son retour à la Maison-Blanche. Donald Trump, c'est officiel depuis un peu moins d'une heure. Il a remporté l'élection présidentielle américaine selon les médias américains. L'ancien président a désormais gagné suffisamment de grands électeurs face à la démocrate Kamala Harris. Il a notamment décroché 4 États pivots sur 7, à savoir la Pennsylvanie, la Géorgie, la Caroline du Nord et le Wisconsin, et il mène la course dans les 3 autres. L'actuelle vice-présidente, elle, paie d'une certaine façon les pots cassés de l'administration Biden, selon David Sylvan, professeur de sciences politiques à l'Institut des hautes études internationales et du développement.
Oh, sûrement, sûrement. Je crois qu'on peut interpréter cette vote-là comme une punition, surtout à propos de la taux d'inflation. Ce qui est frappant, c'est que le pourcentage des gens qui ont cité l'immigration comme raison pour leur vote, c'est assez mince en fin de compte. C'était largement donc, la raison qui a été donnée officiellement par les gens pour expliquer leur vote, c'est l'inflation. Mais je crois que derrière cela, il y a également une certaine frange de la population qui est vraiment réticente à l'idée d'avoir une présidente féminine.
On en est encore là aux États-Unis?
Ah oui, malheureusement. C'est pas pour les gouverneurs, pour d'autres choses, mais il y a encore donc, disons, un plafond de verre, comme on dit.
Des propos recueillis par Sarah Massy et une élection qui aura été marquée par une campagne à rebondissement. Donald Trump a fait un comeback mémorable, visé par une deuxième procédure d'impeachment après l'insurrection du Capitole. Empêtré dans des affaires judiciaires, l'ex-président semblait presque grillé après son premier mandat. Mais depuis l'annonce de sa candidature, il a su profiter de plusieurs tournants importants dans la campagne, Jérémy Pignard.
Visage ensanglanté, hagard, mais poing levé après avoir été touché à l'oreille par une balle le 13 juillet dernier. La photo fera le tour du monde un mois et demi après avoir été le premier président américain condamné au pénal, symbole d'une campagne imprévisible. 2 semaines plus tôt, son premier débat face à son rival d'alors, Joe Biden, est le premier gros tournant. Le président démocrate livre une prestation catastrophique. Le camp démocrate lui-même reconnaît un désastre. La crédibilité de Joe Biden est proche de s'effondrer. Des voix commencent à s'élever pour demander son retrait. Biden se retirera moins d'un mois plus tard, le 21 juillet, Kamala Harris reprenant le flambeau. Entre-temps, Trump est sorti en survivant héroïque, voire en martyr de cette fameuse tentative d'assassinat.
Oui, mais Jérémy, il restait quand même à écarter quelques embûches.
Oui, notamment tenter de faire oublier les ennuis judiciaires. Toujours juillet 2024, ce mois où peut-être tout a basculé, la Cour suprême renvoie à une juridiction inférieure la question de son immunité dans l'examen de ses responsabilité pour avoir voulu renverser l'élection précédente début 2021. Premier obstacle écarté. Septembre, Donald Trump et ses avocats obtiennent un report du prononcé de la peine pour sa condamnation dans une affaire comptable. Report après la présidentielle. Le républicain salue cette décision qui lui enlève encore une embûche sur le chemin de la Maison-Blanche. Le débat avec Kamala Harris, parfois pathétique où on s'invective et on s'insulte, ne rebattra pas les cartes. La démocrate perd des plumes également auprès d'une frange de l'électorat pour ses positions jugées trop pro-israéliennes. Elle paie l'inflation croissante sous l'administration Biden, mais sort quand même en tête de certains sondages. Hier soir encore, Trump franchira cet obstacle, le dernier, et n'attend plus qu'une confirmation. Il l'a eu il y a une heure, celle de sa victoire officielle.
Et une étiquette de survivant qui se relève de tout, qui colle à Donald Trump sur l'ensemble de sa carrière. Avant même d'avoir tous les résultats officiels, il avait quand même déjà célébré sa victoire devant ses supporters enthousiasmes. « Nous avons écrit l'histoire », avait-il lancé. Sans doute vrai, comme le montre le portrait du candidat républicain dressé par notre correspondant à Washington, Claude Porcella.
La victoire de Donald Trump est un retour sans précédent dans l'histoire récente. Son parcours est vraiment étonnant. Ce milliardaire qui avait bâti sa fortune dans l'immobilier à New York est entré en politique sur le tard en 2015. À la surprise générale, il bat en 2016 une politicienne chevronnée, Hillary Clinton. Sa présidence sera chaotique, il gère mal la pandémie, les scandales sont nombreux et quand il se représente en 2020, il est battu par Joe Biden. Mais il conteste sa défaite, prétend que l'élection était truquée, essaie par tous les moyens d'inverser les résultats. Mais son acte le plus répréhensible a lieu le 6 janvier 2021, quand il encourage ses partisans à marcher sur le Capitole, qu'ils vont saccager, alors que Trump les regarde à la télévision dans son bureau. Il attendra plusieurs heures pour demander aux émeutiers de rentrer chez eux. Trump a 4 procès sur les bras, dont un civil, mais en dépit de tout cela, au lieu d'aller en prison, tout semble indiquer, une fois que tous les bulletins auront été dépouillés, que pour la première fois dans l'histoire, un délinquant s'installera à la Maison-Blanche pour 4 ans. Il faut le faire.
Et la rivale Kamala de Donald Trump, Kamala Harris, ne s'est toujours pas exprimée. C'est actuellement la nuit aux États-Unis. La démocrate devrait prendre la parole demain outre-Atlantique, ce soir, heure suisse. Le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis suscite également des réactions en Suisse. Il s'agit d'une catastrophe pour les droits des femmes et des personnes LGBT, selon la conseillère nationale Tamara Funicello. La coprésidente des femmes socialistes rappelle que Donald Trump a annoncé à plusieurs reprises son intention de limiter encore l'accès à l'avortement et à la contraception.
C'est très inquiétant pour le reste du monde, surtout parce qu'on voit que cette tendance, elle ne s'arrête pas aux États-Unis. Il ne faut pas oublier que c'était Donald Trump qui a fait un deal avec les talibans et qui a donné en fait la possibilité aux talibans de faire ce qu'ils sont en train de faire avec les femmes en Afghanistan. Mais en même temps, on a aussi des tendances en Suisse. Si moi j'entends Albert Rusty qui dit qu'en fait Donald Trump comme président, ça c'est pas trop mal pour la Suisse, ça dépend quelle Suisse. Et surtout, là je me demande vraiment qu'est-ce que sont ses opinions concernant les droits des femmes. Et il ne faut pas oublier que ces tendances ne s'arrêtent pas aux États-Unis, elles existent aussi en Suisse, elles existent en Allemagne et en France et ils sont en train de gagner du pouvoir très vite.
Cette élection réjouit en revanche l'UDC bernois Manfred Buller pour tourner la page Biden et démocrate, mais aussi parce qu'il faut relativiser la façon de faire de la politique aux États-Unis d'après Manfred Buller.
C'est une alternance qui est certainement bienvenue parce que le mandat de Joe Biden ne restera pas dans les annales comme un succès phénoménal. C'est sûr que la forme est surprenante vue d'Europe. Le débat politique américain est néanmoins très polarisé depuis toujours. On se souvient d'échanges homériques à l'époque Nixon-Kennedy ou avec Ronald Reagan. Donc c'est une culture politique très différente. Je pense néanmoins que le peuple américain reste un peuple adulte et qui, même si des choses peuvent être contestables sur la forme, lorsque quelqu'un se trouve devant un bulletin de vote, il va quand même prendre une décision en son âme et conscience. Et je pense qu'on fait beaucoup de foin autour de choses qui ne sont que des épiphénomènes.
Des propos recueillis par nos correspondants à Berne, Marie Villemier et Serge Jubin. Et nous reviendrons sur cette élection présidentielle américaine et le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche dans nos prochaines éditions d'information. L'expertise externe sur Clairlogie sera réalisée par Nicolas Petremant. La commission de gestion et de vérification des comptes du Conseil de ville a décidé de confier cette mission à l'ancien chef du service cantonal jurassien de la santé et à son bureau, NEP Conseil. Elle a pris cette décision en accord avec le Conseil communal. Nicolas Petremant analysera ainsi l'ensemble du processus qui a conduit à la reprise de Clairlogie par Perle Avita Betrib AG, société du groupe Tertianum. Le rapport final est attendu dans le premier semestre de l'année prochaine. La Société des peintres et sculpteurs jurassiens fête ses 70 ans. Pour marquer l'événement, une biennale est organisée à la cave de Soyères entre le 10 novembre et le 1er décembre prochain. 28 artistes exposeront leurs œuvres de tout style et de toute technique. Et parallèlement, un projet de boîte en bois a été lancé sur un format unique de 20 cm sur 20, une manière de donner une ligne commune aux artistes qui participent à ce 70e anniversaire de la SPSJ. Les explications de la coordinatrice du projet, Patricia Jean-Guillot.
L'idée, c'était de faire quelque chose qui sorte d'un historique d'une société, de faire quelque chose qui fasse événement autour de ce 70e anniversaire. Et comme j'ai travaillé dans l'enseignement avec des jeunes en fin de scolarité obligatoire, juste avant qu'ils entrent dans le monde professionnel, je trouvais intéressant de développer un projet qui les mette aussi un peu en action. Donc les boîtes, enfin le support boîte en bois a été réalisé par une classe de jeunes. Ensuite, ces boîtes ont été proposées aux artistes. Il y en a 23 qui ont répondu présents sur les 39 de la société. Et à l'intérieur de ces boîtes, chaque artiste réalise son projet qu'il offre ensuite à la société. Et ces projets, dont le thème général, c'est les paysages de l'arc jurassien d'hier et d'aujourd'hui, vont être mis en vente pour le fonds de bourse de Bienne du Jura et du Jura bernois. Un fonds de bourse qui vient en aide à des jeunes qui vont commencer une formation.
Des propos recueillis par Raphaël Chalvera. Ce projet de boîte a donné naissance à un livre avec les œuvres créées. Chaque production est complétée par une présentation de l'artiste.
Vous écoutez RFJ, il est 12h27.
Sport. L'ancien entraîneur du HC Ajoie, Christian Wolvent, a retrouvé un nouveau poste, celui de Gary Sheehan. Holton a annoncé ce matin sur son site internet l'arrivée de l'entraîneur grison pour remplacer le Canadien. Le mauvais début de saison du club, qui figure au 8e rang de Swiss League après 17 matchs, en est la cause. Gary Sheehan, qui occupe également le poste de directeur sportif, est complètement libéré de ses fonctions avec effet immédiat. Et selon le HC Ajoie, un accord a été trouvé avec Holton pour mettre Christian Wolvent à leur disposition jusqu'à la fin de la saison, sans préciser plus de détails. Et Grégoire Saucy a le sourire après sa première saison en endurance. Le pilote de basse-cour et ses coéquipiers ont terminé au 9e rang du championnat du monde après un dernier week-end de course il y a quelques jours à Bahreïn. Un peu plus tôt, cet automne, la saison européenne s'est finie par une 4e place pour le Jurassien et ses coéquipiers. Et Grégoire Saucy est satisfait et l'objectif est atteint, même s'il ne voulait pas le chiffrer pour cette première saison.
Pour moi, il est entièrement atteint. Je ne voulais pas forcément le chiffrer, mais c'est vrai que durant l'année, j'ai beaucoup, beaucoup appris. On a beaucoup progressé. Il y a eu des très, très belles choses durant l'année. Et puis en fin de saison, on est vraiment, vraiment bien. Donc je suis vraiment content.
Concrètement, comment vous jugez cette 4e place européenne, cette 9e place mondiale? Quels sont les sentiments pour vous?
Le championnat d'Europe, ça a été très, on va dire, très chaud jusqu'à la fin, où on pouvait être champion. Là, on finit 4 points derrière le vainqueur, donc c'est vraiment rien. Il y a eu une saison où on a quand même fait 2 victoires, on a fait 4 podiums. Ça a été vraiment une saison qui a été vraiment top. On a vraiment beaucoup travaillé avec mes coéquipiers, avec le team. J'ai énormément appris avec la voiture. Et puis de l'autre côté, dans le championnat du monde, on a eu un peu plus de problèmes mécaniques durant le début de saison. Mais par contre, si on enlève ces problèmes mécaniques, le reste a été des résultats très très bons, avec 3-4e place. J'ai eu la chance de prendre le départ aux 24 heures du Mans. J'ai pris la voiture durant la nuit et on a été en tête de la course. Donc c'est quand même quelque chose d'incroyable et qui reste gravé dans ma tête.
Grégoire Saucy était l'invité de Marceline Michon dans la matinale. Retrouvez un entretien complet en vidéo sur rfj.ch. Le HC Franche-Montagne a l'occasion de se rapprocher du top 6. Pour cela, il devra gagner devant son public contre Lys à 20h15 en Mayo K-League. Auteur de 3 victoires sur les 5 derniers matchs, les Teignons comptent 6 longueurs de retard sur la zone de qualification directe pour les play-offs. Young Boys est lui toujours en quête de ses premiers points en Ligue des champions de football. Les Bernois s'en vont à Gelsenkirchen pour défier le Shakhtar Donetsk. Le coup d'envoi de ce duel face aux Ukrainiens est fixé à 18h45 et IB sera bien inspiré de ramener des points de son déplacement en Allemagne. Michel Léoni.
Young Boys a commencé sa campagne européenne par 3 défaites contre 3 gros clients, Aston Villa, Barcelone et l'Inter Milan. Les Bernois sont par ailleurs décevants en championnat, même si la semaine a été plutôt convaincante, avec 4 points amassés après avoir défié Bâle et Zurich. Face à eBay ce soir, on retrouvera une équipe qui est en exil depuis 10 ans, car un retour dans la région du Donbass n'est pas envisageable. Une équipe qui ne compte qu'un point cette saison en Ligue des Champions, avec un nul décroché contre Bologne. Le Shakhtar n'a pas encore marqué sur la scène continentale. Pourtant, il faudra se méfier des Ukrainiens qui pointent actuellement au 3e rang de leur championnat, avec la meilleure attaque emmenée par le duo Ehori Sudakov et Artem Bondarenko. IB est prévenu, mais IB devra se montrer entreprenant s'il entend cultiver son rêve européen.
Et le duel entre le Shakhtar Donetsk et Young Boys commence ce soir à 18h45 à Gelsenkirchen. Vous entendrez des réactions demain dans la matinale. C'est la fin de cette édition. Merci de votre écoute, bonne suite de journée.